I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon saison 8, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir le dressing d'une conseillère en style personnel. Siem Hadj est une jeune quadra qui rêve d'un idéal où chacune s'aime mieux pour mieux aimer les autres. Et cela passe par les fringues. Pour elle, l'allure vestimentaire nous donne de la force et est aussi un puissant moyen de communication. Vaste programme. Bonjour Siem.
Bonjour Valérie.
C'est Siem ou Siem ?
Siem.
Siem. Bon, ben, je vais t'appeler Siem pendant tout l'épisode, tu ne m'en voudras pas.
Je ne t'en veux pas.
Alors, j'ai repris tous tes mots dans l'introduction. T'es vraiment... Parce qu'il faut savoir que, quand, je le répète souvent, mais quand dans Chiffon, je demande toujours à l'invité de m'envoyer un petit topo, me raconter des choses sur, et son avis, mais en quelques lignes. Toi, tu m'as écrit un roman. J'ai tout repris. Donc, on va commencer et on va déchiffrer un peu. Alors, avant tout, qu'est-ce que c'est conseillère en style personnel ? Parce que pour moi, je connaissais conseillère en style, styliste. Toi, c'est conseillère en style personnel.
Alors, en fait, c'est très compliqué de définir cette activité avec des mots simples parce que c'est une activité qui a été beaucoup démocratisée grâce à la télé, grâce aux émissions de télé-réalité. On parle de relooking, on parle de personal shopper, on parle de conseil en style, on parle de conseil en image. Et finalement, quand j'explique ce que je fais aux femmes que j'accompagne ou aux hommes, il faut vraiment revenir sur cette dimension très personnalisée parce que dans mon approche, en tout cas la mienne, j'essaye d'éviter au maximum tout ce qui est code et standard. Et je refuse en fait de rentrer dans ce truc où on parle de morphologie et de colorimétrie. Et du coup, c'est cette dimension personnalisée sur laquelle je veux mettre l'accent.
Donc, tu appuies bien personnel. J'ai compris. Alors, tu l'as créé en 2020.
Oui.
Après avoir, enfin, tu as travaillé longuement dans les cliniques esthétiques, mais oui. Ça, tu vas nous raconter après.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Pourquoi ? C'est le Covid ?
Alors, effectivement, il y a le Covid et puis il y a peut-être la quarantaine aussi. En fait, c'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps. J'avais déjà commencé avec des bêta-testeuses, avec des amis.
Avec des bêta-testeuses.
Oui, ce qu'on appelle des bêta-testeuses. Tu sais, quand tu montes un projet, tu t'essayes de peaufiner ta technique, ton approche.
Sur des copines.
Sur tes copines, exactement. Et finalement, fin 2020, j'ai eu un accélérateur. C'est que la société dans laquelle je travaillais a mis en place un licenciement pour toute la France, la filiale France. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est le moment. Mon mari m'a accompagnée, j'avais 40 ans, c'est quelque chose que j'avais en tête de toute façon, donc ça a été le driver, voilà.
Et là, tu t'es dit...
Et là, je me suis dit, j'y vais, de toute façon, je sais faire, je veux faire, j'ai des retours extrêmement positifs, j'adore ça.
T'es insatiable sur le sujet, ça c'est clair. Mais moi, j'aimerais savoir, franchement, c'est une question perso, hein, comment ça se passe ? C'est-à-dire que les gens te contactent et qu'est-ce qui se passe ?
Alors, les gens me contactent en me disant « je ne sais pas comment m'habiller le matin » ou « tiens, l'image que je renvoie de moi-même au travail ne correspond pas à ce que je suis » ou « enfin, j'ai vraiment des profils complètement différents. »
Ou alors, je ne sais pas comment m'habiller pour un mariage aussi ?
Alors, non.
Ah non, toi, ce n'est pas ça.
Je n'ai pas ça. C'est-à-dire que je ne fais pas ça sur un instant T ou pour un événement précis.
C'est vraiment, bien de préciser.
Voilà, c'est vraiment une phase de la vie d'une personne qui se remet en question, qui prend conscience que ce qu'elle reflète à l'extérieur n'est pas ce qu'elle est à l'intérieur et elle a besoin d'accompagnement.
C'est une forme de coaching.
C'est une forme de coaching, même si ce mot est un petit peu aussi très...
Utilisé.
Un peu trop, oui. Mais c'est ça.
Et alors, donc la personne te dit...
Et donc, la personne me dit « j'ai besoin d'accompagnement ». Donc, je vais la rencontrer chez elle dans un premier temps. C'est important d'aller chez les gens, je trouve, parce que c'est là où on... on peut constater beaucoup de choses de la personnalité de quelqu'un.
Même dans la décoration.
Même dans la déco. D'ailleurs, tu as une très jolie déco, j'adore. Et finalement, cette première entrevue, c'est beaucoup d'analyse. Alors attention, je ne suis pas psy, je n'ai pas de compétences dans le domaine, mais je pense que j'ai une capacité à l'écoute très active. Et de la même manière qu'on élève un enfant en se disant « on ne va pas lui imposer les choses, on va lui demander de réfléchir lui-même et de trouver la solution », j'essaye d'amener à un certain constat. Et donc souvent, ça dure 2 heures, 3 heures. La personne, elle pleure, je pleure parce que moi, j'absorbe énormément aussi. Oui,
donc il ça me touche. Je sais que tu refuses ce terme, comme tu viens de le dire. Il y a un peu une part de psy.
Ah, bah, tu rentres dans l'intimité des gens. Oui, oui, complètement, complètement. Et pour pas qu'on reste sur notre faim, on essaye de définir ensemble quelles sont les inspirations. C'est-à-dire que la personne, elle va me dire, bah, voilà, moi, j'aime ce genre d'univers, mais je sais pas comment faire. Donc, on fait une première sélection dans le dressing.
Ah oui, là, tu vas dans le dressing. Voilà. Marie Kondo, sors voilà. de ce corps.
Alors, je ne suis pas tout à fait Marie Kondo, mais on fait une sélection de dressing où on dit, bah, voilà, ça, ça convient à cet univers. Ça, ça ne convient pas. Ça, ça convient, ça, ça ne convient pas.
Et qu'est-ce que tu appelles univers, par exemple? Un exemple concret que tu as eu?
Je
ne
sais pas, quelqu'un qui me dit, j'aime le style, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi. J'aime le style boyish, j'aime le style...
De telle femme.
Voilà, exactement. Et donc, du coup, on prend les pièces qui correspondent à cet univers, à ce style, et on retire tout ce qui ne convient pas. Et ensuite, je dresse une liste de ce qui manque. Mm-hmm. Encore une fois, ça va dans le sens de la cliente ou du client. Ce n'est pas moi qui impose. Mm-hmm.
C'est la personne qui demande,
tu veux
même si tu n'es pas d'accord.
Parce que ça correspond à ce que tu aimes et à ce que tu es au fond de toi.
Et ça t'est déjà arrivé de dire non, c'est pas ça ne tirait pas ou
non.
Non. Non. Tu respectes.
Ouais, je respecte. La seule chose qui m'est arrivée de faire, c'est de dire bah, non, avec ta morphologie, sans rentrer dans le standard encore une fois, bah, tu ne peux pas porter de jean slim. Mm. Mais je vais te montrer quel type de jean tu peux porter et comment ça peut te mettre en
mais
valeur.
Mais si personne ne doit porter de jean slim.
Si, on peut porter des jeans slim, mais tu connais globalement,
tu connais ma position.
À part Kate Moss, globalement, je ne sais pas trop.
Et encore. Non, ça lui. Non,
c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur, quelle que soit la silhouette. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des très beaux jeans qui reviennent en taille haute avec du vrai jean, sans élastane surtout. Mmh. Et voilà, on peut...
Le vrai denim. Alors après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire du shopping avec la personne?
Alors voilà, après, du coup, on a dressé cette liste de vêtements qui manquent ou de pièces qui manquent. On établit un budget, parce qu'évidemment, ça va s'adapter aussi au budget de la personne. Je ne peux pas aller n'importe où. Et ensuite, on va faire une session de shopping. Donc, on fait le shopping ensemble, on fait les essayages en cabine d'essayage ensemble, donc le fameux moment de la cabine d'essayage qui est, même pour moi, jamais évident. Et puis, à l'issue de ce rendez-vous, qui déclenche encore de l'émotion, parce que là, c'est concret, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que la femme, elle se dit, bon, ok, je viens de dépenser beaucoup d'argent, j'ai mes sacs aux pieds, là, ça y est, il va falloir que j'opère un changement, c'est difficile.
Et oser aussi.
Et oser, exactement. Donc là, je leur demande... Et c'est très particulier, mais c'est l'expérience qui m'a fait changer cette approche de ne pas ouvrir les sacs sans moi. C'est-à-dire qu'on va se revoir une troisième fois chez elle et faire des essayages ensemble, mais je ne veux pas qu'elle touche au sac. Parce que ce qui se passe, c'est que si elles ouvrent les sacs sans moi, elles se disent au secours, elles reviennent en arrière, ça ne va pas, je ne vais jamais porter ça, pourquoi j'ai acheté ça, je vais revenir dans ma zone de confort, même si finalement, je n'étais pas si bien que ça dedans, au moins je ne change pas. Tu vois, le changement, ça fait toujours un peu peur. Donc, on se revoit une troisième fois chez elle, j'essaie de faire un délai court, on se revoit dans la semaine qui suit ou dans les 10 jours max, et on fait des essayages avec les tenues qu'on a achetées, mais aussi avec les tenues qu'elles ont déjà. Et là, on fait des looks. On fait des looks complets, donc on passe des heures devant le miroir. Tiens, cette chemise, tu l'avais déjà. Avec quel type de pantalon tu pourrais le mettre? Par rapport à tes inspirations, qu'est-ce qui te viendrait spontanément? Et du coup, je prends des photos et on se fait un book comme ça.
Ah
un
oui,
look,
tu...
Pour qu'elles aient aussi, parce que souvent on oublie après, pour qu'elles aient vraiment le fil conducteur. Et puis après, il y a l'autonomie qui va arriver d'elle-même, mais au moins elles ont le fil conducteur.
Mais tu fais l'avant-après aussi?
Bien sûr, je fais l'avant-après, ouais, bien sûr. Et c'est fou d'ailleurs. Et puis après, on range, parce qu'il faut le ranger quand même, le dressing. Alors, je ne suis pas Marie Kondo. Moi, je ne suis pas je ne suis pas le genre de fille, par exemple, qui dit, voilà, vous devez alterner l'hiver, l'été. Je ne fais pas ça parce que pour moi, un dressing doit pouvoir se porter toute l'année, quelles que soient les circonstances. Un pull, tu en as besoin en hiver, en été, parfois. Un t-shirt, tu en as besoin aussi en hiver. Un c'est jean, vrai. Une chemise blanche, une veste, un blazer, un perfecto. Donc, si c'est bien rangé, si tu as les bons t-shirts blancs, les bons pulls, les bons jeans, les bons blazers, les jupes, les robes, enfin voilà, pour moi, il n'y a pas de raison, voilà, d'alterner.
C'est la bonne base. Est-ce que ça t'arrive de, justement de dire à certaines femmes, il vous faudrait avant tout, avant de changer, il vous faudrait une bonne base ? Parce qu'il y a beaucoup, moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent, je n'ai pas la base.
Bien sûr. En fait, la base, c'est le t-shirt blanc, effectivement, mais qui n'est pas déchiré, qui n'est pas jauni, qui n'est pas terni, qui a un beau coton, qui se tient bien, qui n'est pas trop transparent. Bon, ça, il faut le trouver.
Chose difficile à trouver.
Très difficile à trouver, on est d'accord. Même s'il y a des marques qui en font des très bien, voilà, ça finit par s'user et on doit les renouveler. Tant pis, ça fait partie des choses qui se renouvellent plus facilement qu'un jean ou qu'un blazer. Mais oui, ça arrive beaucoup.
C'est quoi le parfait t-shirt blanc pour toi ? J'anticipe parce qu'il y a des filles qui vont me dire « Ah, tu ne lui as pas demandé !»
Le parfait t-shirt blanc, pour moi, il est…
T'as des marques ?
Alors, j'en avais acheté un… mais je pense que je l'ai abîmé parce que je l'ai mal lavé. Chez APC, il y a, il y a 3-4 ans, il était top. Top parce que pas trop moulant, bonne longueur, juste au niveau de la braguette du jean. Donc, juste ce qu'il faut pour que ça laisse un peu deviner la peau, mais pas trop. Le bon col qui monte pas trop haut. Enfin, voilà, il se tenait bien, il froissait pas. Mais le mien, il commence à virer un peu au gris parce que je pense que je ne l'ai pas lavé correctement.
Et maintenant, si tu avais une marque à conseiller ?
Uniqlo.
Uniqlo, oui, Uniqlo. C'est vrai. Moi, j'y pense jamais à Uniqlo.
Uniqlo, ouais.
Alors, justement, on a longuement préparé, on est longuement resté au téléphone pour préparer cette interview. Tu m'as dit que tu as remarqué une chose aussi, ça c'est important d'en parler, je crois, c'est que beaucoup de femmes maintenant arrivent avec des photos de femmes sur Instagram. Et ça te perturbe.
Bah oui, parce qu'en fait, encore une fois, ce que j'essaye d'apporter, c'est garder sa personnalité, révéler sa personnalité. Et en fait, aujourd'hui, malheureusement, avec Instagram, on a un phénomène qui est primitif et qui est naturel. Ça existait déjà avec la presse papier, mais on veut absolument appartenir à tel monde, telle communauté, tel type de personne. Donc, si la paire de baskets, elle est portée par une telle et une telle, oula, c'est cette communauté-là, moi, je vais en faire partie, donc je vais acheter ça. Et puis, je vais acheter cette veste. Et puis, je vais acheter cette marque. Et finalement, on se perd. Et moi, ce que je constate, c'est que j'ai des femmes qui se retrouvent dans un placard blindé de vêtements avec des étiquettes qui sont encore dessus, parce qu'elles ont acheté pensant appartenir à cette communauté.
Ou vouloir ressembler.
Et ou vouloir ressembler, et qui finalement n'arrivent pas à se les approprier, parce que dans l'absolu, c'est pas grave. Tu peux avoir envie d'acheter un truc à la mode.
Tu t'inspires aussi.
Tu t'en inspires et puis tu l'associes différemment et puis tu l'assumes surtout. Et en fait, elles n'arrivent pas à assumer. Et ça crée des vrais troubles, en fait. Des vrais troubles dans la société, ça crée des troubles dans les couples aussi, parce que ça peut générer des problèmes financiers, ça peut générer des problèmes avec le mari ou le mec, parce que finalement, tout ton argent passe là-dedans et que tu n'es toujours pas bien dans ta peau. Voilà, donc je trouve que c'est dommage.
Et ça reflète aussi un terrible manque de confiance en soi.
Et ça reflète évidemment un problème de confiance en soi, évidemment. Ouais.
Alors, pour revenir sur tes mots, tu rêves d'un idéal où chacune s'aime mieux pour mieux aimer les autres. J'ai adoré cette phrase.
Ah, merci. C'est vrai.
Et cela passe par les fringues.
Ouais. Oui, parce que je suis, même s'il y a beaucoup de mouvements autour de la sororité, de la bienveillance féminine, et j'y crois réellement et j'espère que ça va continuer dans ce sens, malheureusement, et c'est peut-être mon expérience personnelle, sans doute même, je trouve qu'il y a encore énormément de rivalité en fait entre les femmes, qui est consciente ou inconsciente, qui peut faire beaucoup de mal, et j'en ai fait les frais, parce que quand tu as confiance en toi et quand tu assumes et quand tu oses, parfois ça génère non pas de la
l'admiration.
L'admiration, mais plutôt de la jalousie et du coup de la méchanceté. Et voilà, et du coup, je pense que si on s'aime mieux soi-même, bah forcément, on n'en a plus rien à foutre. Enfin, on a juste envie de te dire, t'es trop belle aujourd'hui. Voilà, je suis contente pour toi. Et c'est ça, en fait.
Le compliment ne se fait plus beaucoup.
Il se fait malheureusement de moins en moins. Mais moi, je fais partie de ces gens qui continuent à faire beaucoup de compliments. Quand je le pense, évidemment, je ne fais pas de compliments gratuits. Mais je peux m'arrêter dans la rue et dire à une femme, je vous trouve très, très jolie. J'adore comme vous êtes habillée parce que ça fait hyper plaisir, ça fait du bien. Moi-même, j'apprécie quand on me le dit.
Alors, tu te surnommes la fille aux cheveux courts sur Instagram. C'est comme ça qu'on te connaît.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé en 2004 ou 2007, je ne sais plus.
En 2007. Alors, en fait, j'avais les cheveux très longs.
J'ai du mal à t'imaginer avec les cheveux très longs parce que ça te va tellement bien, les cheveux courts.
En fait, c'est moi. J'avais les cheveux très longs et ça m'allait très, très bien aussi. Hein. Franchement, j'avais une petite tête. Bon, j'étais beaucoup plus jeune, évidemment, mais ça m'allait bien. Et j'ai une nature de cheveux mi-ondulée, mi-raide, tu vois. Donc, j'ai cherché plein de trucs. Hein. J'ai fait les bouclettes, j'ai fait les mèches, j'ai fait le blond, j'ai fait le
rouge. Oui, tu aimes bien jouer avec ta couleur de cheveux. On va y reparler.
Mais il y avait... Il n'y avait pas le truc, tu vois. J'arrivais pas à me dire, là, c'est bon, je suis alignée, c'est moi. Voilà. Et à l'époque, je travaillais dans un environnement professionnel, donc avec des chirurgiens esthétiques. J'avais 23 ans, 22 ans. J'étais la petite pépette mignonne. Je te laisse imaginer la caricature du chirurgien qui reçoit une jeune pépette mignonne. Il fallait que je montre un peu plus de charisme, en fait, un peu plus de force. Et j'ai dit à ma coiffeuse, allez hop, je me mariais, c'était l'année de mon mariage. Et j'ai dit, on se marie, on fait le chignon et après tu coupes tout. Et là, il s'est passé un truc incroyable, c'est que le regard des autres a littéralement changé. C'est-à-dire les gens qui me côtoyaient, les proches, les moins proches, tout le monde me disait, mais enfin... C'est super beau, c'est toi, ça te va hyper bien, c'est fort, c'est racé, c'est assumé. Et puis du coup, tu finis par gagner en capital confiance parce que les gens se disent, putain, elle a osé passer de cette longueur-là à là d'un seul coup. Je vais tomber un peu dans l'excès dans ce que je dis, mais putain, elle a des couilles quand même. Faut être... Et du coup, ça te donne confiance.
Et toi,
ça te stimule. Et là, tu dis, bah ok, je peux oser. Moi, j'ai toujours aimé les fringues, j'ai toujours adoré ça. Je peux oser porter ci avec ça, mélanger, être un jour classique et l'autre très rock. Je peux tout oser.
Quel est ton style, en fait ?
Eh ben, ce que je viens de te dire.
Tout.
Franchement, mon style, il est aligné avec mon humeur du moment et mon envie du jour. J'ai pas d'univers particulier.
Tu l'as trouvé à quel âge ? T'as réalisé ça à quel âge ? Ou t'as toujours été comme
alors,
ça ?
Alors, j'ai réalisé ça vraiment, je dirais, après 35 ans. Voilà, où là, vraiment, j'ai trouvé un truc où je savais où je devais m'habiller, comment je devais m'habiller, où j'allais acheter mes vêtements, comment consommer aussi. Parce que j'ai une période, comme beaucoup, très compulsive, où j'achetais tout, n'importe comment, n'importe où. Je me réveillais le matin, je m'habillais, je me sentais pas bien dans mes fringues, je rentrais dans la première boutique que je trouvais et j'allais acheter un truc compulsivement pour me changer.
Ouais, parce que pour beaucoup...
J'ai pu vivre ça.
Je crois qu'on est toutes passées par là. Hein. L'achat...
C'est thérapeutique.
L'achat, on n'a pas le moral. Hop, on va s'acheter un truc qu'on ne... Moi, en tous les cas, je le porte pas quand c'est comme ça. En plus, le pire, c'est ça. Donc,
ah oui, c'est ça. Bien sûr. Donc, ça crée encore plus de culpabilité, encore plus de frustration et encore plus de mal-être.
Tu as eu une éducation à la mode ?
Alors, j'ai pas eu d'éducation à la mode parce que mes parents... Donc, moi, je suis d'un milieu plutôt modeste. Hein. Mes parents sont tunisiens en France depuis, je dirais, 50 ans, bien intégrés, tout ce que tu veux, mais malgré tout avec leur culture orientale dans le sang. Et par contre, j'ai pas eu de culture mode, mais j'ai une maman qui a toujours été très attentive à ce qu'elle portait. Ma mère, il fallait toujours que ce soit soigné, on n'était jamais sale, c'était toujours repassé. Elle accordait tout dans sa tenue, du foulard à la chaussette, le sac. Elle pouvait avoir des tonnes de chaussures, des tonnes de vêtements. D'ailleurs, ça déborde encore de partout. Mon père, ça le rend fou. Mais voilà, j'ai été élevée.
Il y a quand même une appétence aux vêtements.
Dans le sens de l'image et de comment je me présente aux autres. Mmh. Oui.
Quel est l'ADN de ta garde-robe, finalement ? Est-ce qu'il y a un ADN ?
L'ADN de ma garde-robe.
Si tu as tous les styles.
Alors, je vais dire un truc un peu cul, mais en fait, c'est moi. Je ne sais pas comment t'expliquer.
C'est pas mal. Si, c'est bien.
C'est-à-dire que quand je regarde ma penderie, ça me prend 5 minutes à m'habiller tous les matins, pas plus. Je sais que c'est moi, quoi qu'il arrive. Mmh. Ça reflète ce que je suis.
Tu prépares tes tenues la veille ou
Non. Jamais. J'arrive pas à faire ça. Parce que la plupart du temps, quand j'ai essayé de le faire, en fait, je me lève le matin avec une humeur qui correspond pas à celle de la veille. Et du coup, je me dis non, ça le fait pas, je vais changer. Alors, c'est très compliqué pour moi. Du coup, quand je pars, tu vois, là, je pars en déplacement dans le sud 3 jours. Bah, il va falloir que je prépare mes tenues pour 3 jours. Donc, quand c'est comme ça, vu que je ne sais pas dans quelle humeur je vais être, je vais prendre des choses dans lesquelles, de toute façon, quelles que soient les circonstances, je me sens bien. La chemise blanche, le tailleur, ou le costume d'homme, voilà, le truc où je sais que je ne peux pas être en désaccord.
Te mets-tu des interdits vestimentaires ?
Non, aucun.
Et est-ce que tu as le souvenir d'un fashion faux pas ?
Alors, il y en a sûrement. Ça ne m'a pas traumatisée parce que là, tout de suite, je ne m'en rappelle pas. Il y en a sûrement. Mais pour moi, le pire fashion faux pas, c'est de ne pas être en accord avec ce que tu portes parce que du coup, ça se ressent. t'es pas confortable, t'es pas à l'aise, t'as une posture qui est pas ouverte, voilà.
Ouais,
donc ça, c'est un fashion. Ouais, exactement.
Et puis, ta mode, en fait, rejoint ce que t'as dit. Elle est futile, utile, mais aussi futile.
Elle est futile. Faut s'amuser. Bah oui, il faut s'amuser. Faut pas trop l'intellectualiser non plus. C'est important. C'est toute une économie. C'est un moyen de se montrer aux autres. C'est un moyen de communiquer avec les autres. C'est indispensable pour plein de domaines d'activité personnelle ou professionnelle. Mais c'est futile, quoi. Faut aussi en jouer. C'est...
Si tu devais garder un seul vêtement de ton dressing, qui m'a l'air bien chargé quand même.
Non, alors crois-moi, j'en ai pas tant que ça des fringues. Je crois que ça serait une chemise blanche. Une belle chemise blanche.
Tu as trouvé la parfaite chemise blanche ?
Alors, je l'ai piquée à mon mari. Il prend ses chemises chez Figaret ou chez Café Coton, qui sont très bien aussi. Ouais. J'ai une très belle chemise blanche qui ne se repasse pas. D'ailleurs, c'est un très bon conseil, ça, les filles ou les garçons. D'ailleurs, chez Uniqlo, ils font une sélection de chemises chez l'homme qui ne se repasse pas et qui ne se froisse pas.
Mais ça, c'est génial.
Elles ont des tenues incroyables. Le décolleté qui tombe exactement là où il faut, l'oversize comme il faut, et tu peux la porter toute la journée, elle ne se froisse pas. Et je trouve que quand tu as une belle chemise blanche, en été, tu peux la mettre sur un short, en hiver, tu peux la mettre sur un jean, tu peux la mettre sur une jupe, enfin, elle habille.
Et puis, l'accessoire est très important pour toi. J'ai remarqué que tu mets beaucoup de chapeaux.
Ouais, j'adore les chapeaux. J'adore les chapeaux. Alors après, il y a aussi une chose, c'est que d'abord, je trouve que c'est très beau, ça donne de l'allure, ça habille, quelle que soit ta tenue. Et puis, j'ai les cheveux courts. Et donc, quand on a les cheveux courts, et là encore, ils ont poussé par rapport
à... Oui, parce que tu les as eus, mais rasés.
Voilà. Et bien, tu as très vite froid à la tête quand même. Hein. Donc, le chapeau, ce n'est pas juste pour le côté futile. Pour le coup, là, c'est pour le côté utile.
Mais j'ai l'impression que tu en as beaucoup, des chapeaux.
Non, je n'en ai pas tant que ça. J'en ai deux ou trois. Mmh. J'aime beaucoup les chapeaux courtois, en fait. Je ne sais pas si tu connais cette marque. Ce sont des chapeaux qui sont fabriqués en Italie, qui sont de très bonne qualité, très bien coupés, à bord court, parce que j'ai une petite tête, donc il ne faut pas que les bords soient trop longs. Mais voilà.
Est-ce que tu valides l'expression « la tête à chapeau » ou on peut tous porter des chapeaux ?
Je crois qu'il y a des têtes quand même où c'est un peu plus difficile, il faut reconnaître. Mais il y a tellement de variétés de chapeaux, tellement de formes que si on veut, on trouve en fait.
Et le sac, finit-il une tenue pour toi ?
Ouais.
Quand tu donnes des conseils vestimentaires comme ça, personnalisés, est-ce que tu encourages aussi à porter des bijoux ? Je vois que tu as des bagues à chaque doigt.
Oui.
Est-ce que tu les encourages aussi à accessoiriser ?
Je les encourage à avoir de beaux accessoires. Pas nécessairement à accessoiriser, mais si on aime ça, je fais le tri dans les bijoux et tout ce qui ressemble un peu à...
Du toc,
ou des choses pas très chic, pas très jolies. Je leur conseille d'acheter plutôt, de s'orienter plutôt sur autre chose, ouais.
Qu'est-ce que tu penses de la fast fashion ? Tu nous parlais d'Uniqlo.
Alors, je pense que c'est bien dans le sens où, évidemment, ça permet d'avoir accès à la mode à un tarif qui est beaucoup plus accessible à toutes et tous. J'y vais pour ma fille, parce que ma fille a 12 ans et que je n'ai pas le choix. Alors, elle aime bien maintenant de plus en plus aller sur Vinted parce qu'elle a compris qu'elle pouvait avoir de très jolies choses beaucoup moins chères. Mais bon, en même temps, quand tu dois lui acheter des survêtes, quand tu dois lui acheter des sweats, etc. Mais ce qui me dérange, c'est que d'un côté, on se dit que c'est beaucoup plus accessible en termes de prix. Donc, du coup, ça facilite l'accès. Et en même temps, ça pousse à la consommation. Tu n'en as jamais assez. Enfin, moi, quand je rentre chez Zara, par exemple, avec ma fille, je me dis, mais au secours, en fait, ça ne s'arrête pas, ça se renouvelle sans arrêt.
Tu changes de collection tous les mercredis ou tous les jeudis, ça tourne.
Et du coup, tu pousses à la consommation. Et moi, encore une fois, je vois des personnes qui se retrouvent avec des tonnes de jeans dans leur placard, par exemple, parce que, bah, effectivement, un jean à 20 euros ou à 25 euros, ils sont très bien, mais à quoi ça sert d'en avoir 60 ?
C'est quoi le bon jean pour toi ?
C'est celui qui gaine, c'est celui qui marque la taille, c'est celui qui est suffisamment délavé pour être pas trop strict, et en même temps que tu peux porter aussi bien dans la vie perso, dans le dégaine le week-end qu'au travail, enfin voilà, celui dans lequel tu te sens bien en fait.
Et tu disais tout à l'heure sans élastane.
Exactement, sans élastane.
Et ta relation au vintage ? Je sais que c'est important.
J'adore
pour toi.
J'adore le vintage. Alors, je ne suis pas une... Il y a des filles qui sont beaucoup plus... Enfin, je veux dire, je ne suis pas une connaisseuse dans le sens où je ne connais pas les années de fabrication. Je connais pas... Je sais qu'il y a une époque où les matières étaient... Les tissus et les coupes étaient beaucoup mieux. Mais j'aime acheter en seconde main et en vintage.
Ah, c'est différent.
Ce n'est pas la même chose.
Voilà, exactement. Parce que... écoutez, l'épisode... Il y a un épisode précédent qui n'est pas encore diffusé. Ah, là, je m'en mêle les pinceaux, mais...
Ah, je ne l'ai pas encore entendu, celui-là.
C'est la CEO de... La créatrice d'Imparfait Paris qui nous a... On a fait un épisode spécial vintage qui est passionnant.
Ah, bah, je vais l'écouter avec plaisir. J'ai hâte. Non, en fait, alors, j'aime le vintage parce que je trouve que ça donne encore une fois de la personnalité, que les matières et les coupes sont différentes, que... Ça a une âme. J'aime l'âme, en fait, que ça porte. Tu vois, il y a des gens que ça dérange de porter un vêtement qui a déjà été porté parce que tu sais pas quelle histoire il transmet, tu sais pas quelle histoire il a vécu. Ben, moi, c'est presque l'inverse, en fait. C'est ça qui me titille. Mais c'est pareil pour les bijoux, par exemple. Tu vois, tu me parlais de mes bijoux. Ça,
magnifique,
tout ça, c'est
cette
des
chaîne.
Choses que je chine, en fait, chez les antiquaires. C'est une ancienne montre, chaîne de montre à gousset que moi, j'ai montée en collier. J'en ai plusieurs comme ça. Ça me permet d'avoir une identité à moi, quelque chose qui ne ressemble pas à tout le monde. Et dans le vintage, c'est ça. Et dans la seconde main, ce n'est pas du tout la même démarche. Dans la seconde main, c'est plus la notion d'acheter de belles pièces à un prix qui soit accessible plutôt que d'aller acheter dans des marques qui se vendent beaucoup aujourd'hui de la moins bonne qualité au même prix. Voilà, c'est plus ça, en fait.
Et tu encourages les filles aussi que tu suis. Tu me disais que tu avais même des portants de vêtements
Alors, non. Alors, je n'ai pas de portant. J'ai mes petites boutiques où je les emmène toujours parce que l'idée, c'est que derrière, elles puissent aussi aller s'habiller d'elles-mêmes et que je ne sois pas toujours obligée de les accompagner, qu'elles soient dans un lieu de confiance. Moi, je accorde beaucoup d'importance à l'accueil en boutique, au conseil personnalisé, à la bonne consommation. Donc, je les oriente dans ces boutiques-là. Et après, 2-3 fois par an, j'essaye de faire ça 2-3 fois par an, j'organise des ventes où je vends des produits en seconde main. Non pas parce que je veux vendre des vêtements, mais parce que je veux justement montrer aux femmes qu'on peut très bien trouver des total looks et s'habiller en seconde main. Alors après, ça, du coup, c'est des marques qui sont beaucoup plus récentes, mais qui sont en très bon état.
Dit, c'est Maje, Sandro,
Bache. Exactement, on a tout Monoki, on a vraiment des trucs qui se portent couramment, mais à un prix qui est beaucoup plus accessible. Voilà.
Et ça, comment on peut savoir quand tu fais
ça? Je communique sur Instagram à chaque fois que j'en fais. Ouais.
Est-ce que tu as une icône de mode?
Cette question, je savais que tu allais me la poser. Bah, en fait, je crois que si je devais avoir une icône de mode, ça serait le trio Jane Birkin, Lou Doyon et Charlotte Gainsbourg. Ce qui correspond pas du tout à mon univers vestimentaire, tu remarqueras.
Mais
ni capillaire, mais j'aime l'attitude qu'elles ont. Je trouve qu'elles sont toutes les trois alignées avec ce qu'elles sont. Elles n'ont jamais changé. Elles ont toujours été fidèles à elles-mêmes. Et ça, j'aime.
J'ai oublié de poser une question. La tenue qui sublime toutes les femmes, c'est un conseil à donner?
Alors, ça ne serait pas une tenue, ça serait un rouge à lèvres.
Ah bon?
Ouais. Ouais, je pense que tu peux être en jogging, avec un chouchou sur la tête. Dès lors que tu mets un rouge à lèvres, en fait, tu exprimes ta féminité, tu exprimes ta sensualité et tu te sens plus forte, tu te sens plus belle, tu te sens plus féminine. Donc, oui.
D'ailleurs, est-ce que tu donnes des conseils de maquillage et de coiffure ou pas?
Alors, pas de manière systématique. Encore une fois, il n'y a pas de système.
C'est à la demande, oui.
C'est à la demande. Si la personne, elle a, je sais pas, un problème de peau, par exemple, déjà, avant de passer au maquillage, je vais l'orienter chez un dermato. On va régler le problème de peau parce que ça, c'est un vrai handicap. On ne peut pas se maquiller si la peau, elle n'est pas nickel. Et en fait, effectivement, après, à la demande et au besoin, on peut prendre des cours de make-up ou passer par la case coiffure s'il y a besoin de faire quelque chose avec les cheveux.
Oui, ouais. Donc elle te confie leur vie.
Elle te confie, voilà. Et ça, du coup, tu vois, pour faire un lien sur Instagram, souvent on me dit sur Insta, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que tu fais parce que tu ne montres pas d'avant-après, tu ne montres pas…
C'est peut-être privé.
Et en fait, exactement, j'ai du mal à le faire parce que j'estime que je rentre tellement dans l'intimité de ces femmes… J'ai pas envie de raconter leur intimité, moi, sur Instagram. Je trouve que c'est… Voilà. C'est parce que ça ne se résume pas à une histoire de « tu peux m'aider à trouver le jean qui me va bien ». C'est
C'est plus profond.
Plus profond que ça.
Oui, tu m'as raconté des choses.
C'est beaucoup plus profond.
Sans dévoiler non plus.
Non, mais parce que quand tu creuses, il y a toujours un truc, il y a toujours un ancrage négatif à un moment donné qui fait qu'il y a eu un mal-être, un manque de confiance. C'est le père, c'est le mari, c'est le travail, c'est la mère, c'est l'ex-conjoint, c'est tout ce que tu veux, la meilleure amie, le divorce. Mais il y a un truc profond. Et ça, je n'ai pas envie d'en parler ouverte, enfin, de manière publique. Je trouve que c'est très personnel.
T'es tenue à une forme de secret professionnel.
Ouais, j'aimerais pas qu'on le dévoile si ça venait de moi. Donc voilà, c'est...
Quelle est ta définition de l'élégance ?
J'ai tout entendu comme type de réponse, donc je vais essayer de changer un peu.
Que je la change, cette question.
Je crois que... Non, je trouve qu'elle est intéressante parce que du coup, on entend plein de réponses qui sont pertinentes. Et l'élégance, pour moi, c'est un prolongement de soi. De son soin intérieur. C'est-à-dire que tu es élégante, quelle que soit ta tenue vestimentaire, encore une fois, quand tu es alignée tête, cœur, corps, quand tu es alignée à l'intérieur de toi et à l'extérieur, ça se voit dans ta façon de t'exprimer, ça se voit dans ta gestuelle, ça se voit dans ta démarche, ton porte de tête. Enfin, voilà. Et ça, c'est de l'élégance.
En fait, tu es une forme de psychothérapeute de la fringue.
Un peu. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça.
Merci à toi, Siem.
Merci beaucoup, Valérie.
Et
merci.
Je donnerai les coordonnées pour te joindre.
Super.
En merci dessous de l'épisode. Merci. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.